Radio Django. Vivre à Lausanne.
Dans la rubrique Vivre à Lausanne, nous parlons depuis quelques semaines déjà de la participation citoyenne. Pour certains, une promesse d'une démocratie locale et d'un réel partage du pouvoir. Pour d'autres, un outil d'instrumentalisation par des acteurs dominants. Nous avons déjà reçu à nos micros plusieurs observateurs critiques et acteurs dans les démarches participatives. Par exemple, le politologue Antoine Chollet et le géographe Laurent Matté. La semaine passée, nous avons parlé du contrat de quartier de Montély avec un habitant qui a suivi le processus depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous restons dans le concret, Fabio, et nous allons parler d'un autre processus qui se passe dans le quartier du Vallon, à Lausanne, où habitants et usagers suivent de très près le développement de leur quartier.
En 2010, la ville de Lausanne lance une démarche participative dans le quartier du Vallon en vue de revaloriser le site de l'ancienne usine d'incinération fermée en 2006. Elle propose aux habitants de rêver de leur quartier idéal. À l'issue de plusieurs rencontres, une liste de 45 objectifs est adoptée. Il est prévu notamment la construction de 150 logements pour de l'habitat bon marché, de dépôts culturels ou encore plusieurs améliorations du tissu existant en termes de mobilité, de mixité et de préservation du patrimoine. Aujourd'hui, le projet est confronté à un problème de financement et le début de l'intervention des pelleteuses n'est pas encore planifié. Pour préserver l'âme de la participation citoyenne, un groupe de suivi s'est constitué depuis le début de la démarche en 2010 et une association de quartier voit le jour en 2014. Nous avons le plaisir d'en parler avec Philippe Schweitzer. Bonjour.
Bonjour.
Porte-parole de l'association du Vallon et Pascal Paté.
Bonjour.
Architecte qui a longtemps habité au Vallon et est membre fondateur de l'association. En 2010, donc, les habitants ont été conviés à une démarche participative par la ville. Comment cela s'est concrétisé ?
Ça a commencé par la mise en place du fameux groupe de suivi, qui a été la toute première étape. Et puis la suite de la démarche a justement été aussi réfléchie avec ce groupe de suivi, avec l'approbation de ce groupe de suivi, qui est composé d'habitants, d'usagers, de représentants des acteurs culturels et sociaux du quartier. Donc c'est vraiment un groupe très important qui continue d'être la charnière de tout ce système. Ensuite, il y a eu des ateliers de travail autour d'une table, autour de cartes. Il y a eu des safaris urbains où on se promène dans le quartier pour découvrir, se familiariser avec les différents éléments, puis exprimer les attentes aussi sur place quand on vit une place publique, par exemple. Et il y a eu une fête de quartier, il y a eu ensuite des séances publiques, il y a eu un questionnaire également qui était envoyé à tous les habitants. Donc vraiment une palette très large pour obtenir un maximum de propositions et d'envie des habitants.
Ça a débouché, Pascal, sur une sorte de feuille de route, par exemple ?
Alors, la feuille de route, elle est justement le résultat des 45 objectifs qu'on a pu définir à travers ces ateliers, à travers toute cette démarche de demande aux habitants, aux usagers, aux institutions. Et cette feuille de route, nous la préservons à travers le groupe de suivi au fur et à mesure des années maintenant, puisque ça fait plusieurs années que nous sommes en train de travailler ardemment avec la commune.
Donc le groupe de suivi est issu de ces premières conférences de quartier. C'est encore autre chose que l'ensemble des habitants et usagers du quartier qui se retrouvent pour discuter de leurs rêves par rapport au quartier.
Oui, le groupe de suivi, il a été mis en place par la ville vraiment en tout début. C'est-à-dire que la ville a essayé de chercher un petit peu dans le tissu existant qui étaient les acteurs du quartier pour en fait que ce soit des multiplicateurs qui fassent le relais auprès des habitants de la démarche et puis d'arriver dans le quartier en n'ayant aucun relais finalement et peu de connaissances du terrain. Donc ils ont pris des représentants d'un groupe de quartier qui existait déjà avant, qui organisait des animations, des vide-greniers, etc. Et puis ils ont pris des représentants des acteurs culturels et sociaux du quartier pour pouvoir s'appuyer au fait sur ces gens qui connaissent le terrain. Et c'est ensemble, le groupe de suivi et la ville, qui ont ensuite composé la démarche participative, la première étape qui était prévue, mais aussi des étapes futures qui étaient à... qu'on devait inventer au fur et à mesure, et on continue aujourd'hui avec ce groupe de suivi, donc avec les représentants de la ville et ceux du quartier, à co-construire la démarche elle-même et puis réfléchir à chaque fois quelles étapes on a besoin pour avancer, pour que les choses se réalisent, avec un maximum de participation puis un maximum de fidélité par rapport effectivement à ce qui a été donc demandé dans ces premières années de démarche.
Est-ce que c'est un peu un jeu de ping-pong entre ville, groupe de suivi et groupe d'habitants qu'il faut entretenir, auprès desquels il faut aller pour redire, représenter ce qui a été discuté à la ville, par exemple, Pascal ?
Alors c'est un travail permanent parce que les choses qui se défont le lendemain. Ce qui est important, c'est vraiment la continuité. Nous, on a cette continuité dans le groupe de suivi au niveau du rapport avec les autorités qui continue en permanence à travailler dans leur administration, mais qui parfois ne sont plus en lien avec le quartier. Donc nous, on est un petit peu, le groupe de suivi était perçu comme un garde-fou aussi, le garde-fou de l'administration, pour que l'administration continue à collaborer étroitement avec la population.
On a parlé tout à l'heure des 45 objectifs pour rêver d'un quartier idéal. Est-ce que vous nous en parlez un petit peu, Philippe ?
Oui, alors, ça va être difficile de citer les 45, mais il y en a quelques-uns qui, désormais, c'est sûr, ne se feront pas. Comme par exemple de refaire des bains, en tout cas pas dans un avenir proche, de refaire des bains. Les gens souhaitaient de refaire des bains, vu qu'il y en avait des thermes au vallon. Il y en a certains qui sont déjà réalisés aujourd'hui, comme par exemple la fermeture au trafic de la place du Nord, comme la mise en zone 30 de tout le quartier, comme le nettoyage d'un magnifique bas-relief de chevaux sur les anciens magasins de la ville. Il y a des choses, il y a la réhabilitation des jardins aussi ouvriers derrière les anciens magasins de la ville, qui sont désormais des jardins collectifs qu'on a mis en place au printemps. Et puis il y en a certains qui sont mis en route, comme de revaloriser tous ces anciens magasins de la ville, qui sont un bâtiment patrimonial magnifique, où il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, certains objectifs qui sont liés au nouveau quartier, où là, effectivement, il y a une incertitude. Donc, finalement, pour l'instant, on n'y a pas touché.
Oui, je voulais rajouter quelque chose par rapport aux anciens magasins de la ville, qui est un grand, grand bâtiment que peut-être certaines personnes connaissent, d'autres pas. Mais c'est un paquebot, en fait, que la ville ne veut pas aborder parce que les frais de rénovation et de transformation pourrait paraître tellement important. Et donc nous, dans le groupe de suivi et dans le quartier, on recherche toutes les synergies, toutes les possibilités alternatives de fonctionner en collaboration avec tout un chacun. Et le tout un chacun, là, en l'occurrence, c'est par exemple la Haute École de Fribourg, l'Institut Transforme d'architecture, qui a une approche très rénovation douce, rénovation légère, appropriation de l'espace, démarche participative justement. Et donc on a trouvé la possibilité de travailler avec eux, finalement avec l'académique, et eux peuvent nous permettre de faire des choses qui ne seraient pas possibles de faire si on devait les donner à des mandataires externes.
J'imagine que vous avez effectivement monté un réseau de compétences à l'intérieur du quartier pour essayer de résoudre un certain nombre d'atteindre un certain nombre d'objectifs, comme vient de le dire Pascal. D'autres personnes, d'autres entités avec lesquelles vous avez collaboré pour avancer dans les projets du quartier?
Oui, enfin, les personnes et puis les organisations sont nombreuses. Alors, il y a les théâtres et les institutions sociales qui sont très présentes dans le quartier, qui forgent aussi pour une partie l'âme du quartier qu'on veut conserver. D'où aussi tout un enjeu, justement, de travailler ensemble, d'intégrer, de fêter aussi parfois ensemble pour vivre le côte à côte, pas seulement en se voyant de loin puis en ayant peur, mais aussi en s'approchant de l'autre. Et puis, on découvre tout le temps encore des nouvelles personnes qui ont des compétences. Il y en a tellement. Enfin, le quartier n'est pas très grand, mais ça fait beaucoup de monde. Ben, il y a un grand projet en juin prochain qui mêlera la population, les artistes, les artisans. Et voilà, on découvre tous les jours de nouvelles personnes qui font des choses. Donc, il n'y a pas vraiment de limite à cette ouverture. C'est vraiment l'esprit du quartier et puis l'esprit de notre démarche. C'est d'ouvrir sans cesse le maximum.
150 logements, ça fait quand même un sacré paquebot à insérer dans ce quartier. Oui, quel regard vous avez sur ces constructions ?
Alors, la première condition qui a toujours été depuis le début dans la démarche participative de tout le monde, c'est de dire on ne veut pas un nouveau quartier complètement étranger au quartier existant. On veut une continuation du quartier. De là, la démarche de la ville de faire un mandat d'étude parallèle, de demander à plusieurs bureaux d'architectes de faire quelque chose qui serait en adéquation, qui serait en continuation du quartier existant, avec, en respectant la mixité de population, la mixité des usages, la mixité des fonctions. Et ça, effectivement, nous voulons absolument le conserver. On ne veut pas d'un quartier qui aurait une tendance à la gentrification, ça veut dire à avoir une autre population qui ne serait pas du tout en accord avec celle existante, quoi.
Quelles sont les prochaines étapes, des activités, des événements particuliers, Pascal ?
Alors, par rapport à la fermeture de la rue de la Bossette, pardon, la place du Nord, nous avons aussi mis en place un bus que nous avons récupéré de la Fazel et qui sert de bibliobus le mercredi après-midi, les mercredis soirs, pour certaines autres activités. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi le groupe de quartier qui vient participer à la rénovation de la place de jeu. On a beaucoup poussé dans le quartier à avoir une rénovation de cette place qui est devenue très vieille, où les engins sont plus tout à fait au goût du jour. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes eux-mêmes viennent vers nous et ont des demandes. Ils nous disent on aimerait bien des appareils de fitness dans la rue. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'eux-mêmes disent mais on pourrait les construire nous-mêmes. Donc la demande de participation, finalement, vient de ces jeunes. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces jeunes-là, il y a quelques années, avait déjà fait un projet participatif avec le Young Power, qui était la construction d'une illumination de la place de jeu avec un engin à pédaler pour produire de l'électricité. Et c'est ces mêmes jeunes qui, il y a quelques années, ont eu cette expérience participative qui, aujourd'hui, ben, on voit que la petite graine, elle a poussé et qu'eux veulent continuer cette action.
Vous avez créé de meilleure qualité de vie dans le quartier, Philippe.
Ça serait un petit peu gonflé peut-être de le dire comme ça, mais en tout cas, on l'espère qu'on y contribue et puis que notre action y contribue. Puis quand je dis nous, j'ai vraiment envie de dire que c'est tout le quartier. Ce qu'on fait aujourd'hui, effectivement, il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre, qui font des séances, mais il ne faut pas oublier qu'on s'appuie sur ces fameux objectifs, donc sur ces fameuses demandes qui ont été exprimées par l'ensemble du quartier. Donc c'est parce qu'à un moment donné, les gens se sont mobilisés pour dire voilà ce qu'on veut, que nous aujourd'hui, on peut aussi dire ben, on essaie de le faire. Et puis surtout au moment où ça va devenir concret, vous revenez, puis vous remettez la main à pâte. Et puis c'est un résultat qui est vraiment commun et partagé le plus largement possible.
Merci Philippe Schweitzer et Pascal Pathé pour votre contribution à mieux comprendre les démarches participatives par l'exemple du quartier du Vallon. La semaine prochaine, nous allons retrouver nos deux invités, Philippe Schweitzer et Pascal Pathé, pour parler cette fois-ci plus particulièrement du sens de la participation citoyenne telle que vous la vivez, des défis de l'association de quartier et de l'importance de l'expertise des habitants dans des projets touchant leur lieu de vie. On remercie Fabio également pour ce sujet. C'est un dossier qui a à suivre et à retrouver sur notre site django.fm.